Nous sommes jeudi 6 février 2025, il est 6h15, place au journal sur Radio Maïndiléo. Au sommaire, les rebelles du M23 ont conquis la cité minière de Niabibwe dans les territoires des Kalehe. C'était lors des combats intenses qui les ont opposés aux phares des CIR depuis tôt le matin, à suivre dans cette édition. La situation sécuritaire du moment en RDC est une répétition de l'histoire ancienne du pays de 1996 à 1997 et de 1998 à 2003. La vie de Ignace Mupira Mambo, ancien président de la commission de suivi du dialogue intercongolais de Sand City au sein de la société civile du Sud Kivu pour aboutir à la paix en cette période de crise. Notre invité ce matin propose la voie militaire, diplomatique et surtout du dialogue. Voilà tout pour les titres. La mise en onde de Jean-Claude Ndague, Hélène Boudjeriri, c'est mon nom. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai annoncé en titre hier, mercredi 5 février, les rebelles du M23 ont conquis la cité minière de Niabibwe, située dans les territoires des Kalehe. Nous sommes au sud que vous. C'était après des combats intenses avec les forces armées de la RDC qui ont débuté depuis 5h du matin. Les affrontements se sont déroulés principalement sur les collines Nyangatwa et Chanjwe. Selon des sources de la société civile, ce sont les rebelles qui ont attaqué les positions des FARDC au niveau de Mukwija, dans les hauts plateaux des Kalehe. Des affrontements qui ont provoqué un déplacement de la population de Niabibwe vers d'autres endroits, dont Iusi Centre. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrances, a déclaré hier, mercredi 5 février, le ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba. C'était au cours de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire africaine européenne. Tenue hier à Bruxelles pour Thérèse Kayikwamba, cette guerre du M23 soutenue par les Rwandais est non seulement une guerre des territoires, elle est aussi économique, caractérisée par les pillages des ressources naturelles par les Rwandais. Elle est également revenue sur la déclaration d'un prétendu cesser le feu du M23 qu'elle a qualifié de mise en scène cynique, destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. Entre-temps, les habitants du sud Kivu sont appelés à mettre de côté, s'équiper, les diviser et prioriser la mobilisation pour une résistance face à l'ennemi. Ils sont également appelés à dénoncer toute personne suspecte qui se cacherait dans la communauté auprès des services de sécurité. Ce message a été lancé lors d'une prière œcuménique à l'intention de la population du Nord et Sud Kivu, organisée par les femmes de toutes les confessions religieuses réunies au sein de la dynamique Femmes et Paix en la salle du centenaire Mater Dei, hier mercredi 5 février 2025. Reportage Expedi Kialou.
Sous des sons d'adoration et dans un climat de prière, des intentions ont été formulées notamment pour la fin des hostilités et le retour de la paix en RDC, pour les déplacés de guerre et les familles qui ont perdu les leurs, pour le patriotisme des Congolais et la prise de conscience des chefs des Nations Unies et des pays occidentaux. Ayant pris l'initiative, la commission de Suzanne Justice et Paix, Bukavu, indique avoir pensé à cette activité dans le but de prier pour la nation en mettant de côté les divergences religieuses et surtout appeler à la mobilisation pour la collecte des aides en faveur des déplacés. La sœur Émérance Lukende Rouam, chargée de la dynamique femme au sein de la CDJP Bukavu, en parle.
Prier pour nos gouvernants, prier pour nos frères et sœurs qui sont en train d'être tués au Nord Kivu pour le repos de leurs âmes, mais aussi appeler à la mobilisation de toutes les femmes, de toute la population du site Kivu à collecter des aides pour aider nos frères et sœurs déplacés et pourquoi pas aider aussi les militaires qui sont sur le front.
Au nom des églises de réveil, Christine Sassam, pasteur de l'église Sion Palais de Grâce, ajoute pour sa part que les femmes n'ont pas la force pour prendre des armes mais vont accompagner ceux qui sont au front à travers des séances de prière afin que la nation congolaise soit sauvée.
Nous les femmes, nous sommes fortes, devons nous lever et parce que nous n'avons pas la force de prendre les armes, comme nos phares d'essai, nous avons choisi de prendre l'arme qui est la prière afin de pouvoir intervenir aussi dans cette guerre.
Asiya Kamuna de l'Association des femmes musulmanes pour le développement appelle de son côté les personnes impliquées dans le dialogue à parler un seul langage pour la fin des hostilités.
Nous, comme femmes musulmanes, nous allons apporter les messages comme cesser les feux. Non à l'agression, non à la violence, non vraiment à la guerre, nous voulons la paix. Aux autorités de s'entendre.
Parlant de dialogue, la présidente du bureau de coordination de cette ville du Sud Kivu, Maître René Bintou, veut qu'il soit franc et surtout que le Rwanda retire ses troupes de la RDC.
Il faudrait qu'on fasse une attention particulière à tout ce qui est en train d'être fait. Je pense que si les forces politiques sont unies et si nous continuons la voie diplomatique, je pense qu'on peut s'en sortir. Et nous pensons que ne doit pas tout résoudre par les armes. Moi, je pense que nos politiciens devraient aimer ce peuple, devraient aimer la nation congolaise.
Ayant pris part à cette prière, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Roussi, rassure de la volonté du gouvernement à mettre fin à cette guerre longtemps décriée à l'est de la RDC.
Merci, Expédie Kalou, et l'approche du dialogue tel que voulu par la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'Église du Christ au Congo SCC est idéale parce qu'elle vise à rechercher la cohésion à l'interne pour résoudre la crise sécuritaire qui secoue les pays. Au travers de cette démarche, les acteurs majeurs, y compris ceux qui ne sont pas en odeur de s'entêter avec les présidents de la République, peuvent faire des concessions et accepter de contribuer pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Ignace Mupira, député national en période de la transition, vice-gouverneur honoraire du Sud Kivu et ancien président de la commission de suivi du dialogue intercongolais de Sun City au sein de la société civile Force Vive. Il croit en la démarche de la CENCO et de l'SSC en espérant qu'elle soit l'une des solutions à la crise sécuritaire du moment. Ignace Mupira.
Pour revenir à l'approche avec l'SSC et la CENCO, c'est une approche du dialogue. Il faut communiquer avec tous les acteurs majeurs. Et parmi les acteurs majeurs, il y a les acteurs internes. Et là, on fait appel à la cohésion nationale. L'Église catholique, comme le président lui-même a dit, que l'Église doit se comporter comme l'Église au milieu du village, l'Église a la possibilité d'approcher les acteurs majeurs internes, ce qui est une bonne chose. Et là aussi, la possibilité d'aller au-delà de nos frontières. Et là, la possibilité d'approcher les belligérants, pourquoi pas, les fameux Corneille Nanga et les autres. L'Église catholique peut se rendre à Kigali. Le président ayant pris la résolution d'approcher l'Église, c'est certainement pour que l'Église puisse l'aider à approcher ceux qui ne peuvent pas atteindre facilement, ceux qui ne l'écoutent plus. L'Église peut arriver à Bunagana, l'Église catholique peut venir à Goma. Et donc c'est une approche heureuse pour moi, parce que là nous sommes dans une démarche de résolution du conflit par une approche de dialogue.
Et les professeurs Désiré Kachmir Eberand Kolongele est nommé conseiller spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Sa nomination a été annoncée hier, mercredi 5 février 2025, sur la chaîne nationale. À ses postes, il succède à un autre professeur et juriste, Jean-Louis Essambo, qui occupait ses postes depuis août 2023. Bien avant cette nomination, Désiré Kachmir siégeait à l'Assemblée nationale comme député national après son départ du gouvernement dirigé par Jean-Michel Samaloukonde. Désiré Kachmir fut également directeur des cabinets adjoints de Tshisekedi en charge des questions juridiques. Il a aussi assumé l'intérim des directeurs des cabinets après l'arrestation de Vital Kamerhe. Entre-temps, 18 armes récupérées et plusieurs munitions, 25 militaires arrêtés avec une vingtaine de civils complices, y compris des femmes à Kavumu-Bugore, un territoire des Kabarès. C'est le bilan d'une opération de bouclage qui a eu lieu dans la nuit du samedi 1er février à dimanche 2 février 2025 à Kavumu, un centre commercial en proie à une insécurité grandissante ces derniers temps. Omer Moudé-Kereza nous en parle.
Organisé par les gouvernements provinciaux sur demande de la société civile de Bugori et les autorités locales, l'opération a été conduite par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Murula Kaasha Albert Difoka Maiko. Dans un entretien avec Radio Maendeleo, mardi 4 février, Justin Mulindangabo, président de la société civile de Bugori, indique que les militaires arrêtés sont ceux-là qui échappent au contrôle et qui sèment l'insécurité dans cette entité. Justin Mulindangabo plaide pour l'élargissement de ces bouclages dans les groupements de Miti et Irambi Katana.
Okay. État congolais, nous puissions apporter notre pierre de contribution pour la protection et la sauvegarde des limites de notre pays, mais aussi sensibiliser la communauté à ne plus héberger les personnes qui nous font manquer la paix dans le milieu. Ça vaut la peine de toujours collaborer avec les services de sécurité pour que normalement on puisse dénoncer à temps réel au lieu qu'on puisse toujours dénoncer les cas d'assassinat, de braquage, au moment où les personnes qui nous braquent et qui nous pillent sont toujours hébergées par nous-mêmes populations.
Et dans un meeting visant à mettre fin à l'insécurité à Kavumu et sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans le mouvement patriotique Wazalendo, mardi à Kavumu, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Murula Kaasha Albert a demandé à la population de continuer la collaboration avec les services de sécurité afin de vaincre l'ennemi. Pour rappel, la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février 2025. N'a pas été rose pour la population de Bougoré. Plusieurs maisons parmi lesquelles Lenganda la Sap de Mouloulou dans le groupement de Miti ont été la cible des personnes armées non autrement identifiées qui ont emporté des biens, causant également des personnes blessées qui suivent des soins.
Et l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, ainsi que des sections du Sud Kivu appellent les autorités à tous les niveaux au Sud Kivu de mettre en place une task force communication qui se chargera d'informer journalièrement la population au sujet de ce qui se passe dans les zones de combat entre les M23 soutenues par les Rwandais et les forces armées de la RDC associées au Wazalendo. La mise en place de cette task force sera une solution pour barrer la route aux rumeurs et à la désinformation en cette période de crise. N'est-ce pas, ma Pendolinda?
Appel lancé au cours d'un point de presse tenu à son bureau et qui avait pour objectif d'un côté de rappeler aux journalistes les normes éthiques et professionnelles en cette période et de l'autre côté plaider pour l'accès des journalistes à des informations sûres, crédibles et traçables. Le président de l'INPC, section du site Kivu, Darius Kitoga, rappelle que le journaliste est l'acteur principal de sa sécurité. À cet effet, il demande aux professionnels des médias d'éviter de diffuser des informations dont les sources ne sont pas connus et leur exhorte au respect de l'éthique et de la déontologie. Darius Kitoga.
La population peut avoir d'autres informations sur les réseaux sociaux, mais elle attend que ça soit la radio, la télévision, les journalistes professionnels qui endossent cette responsabilité-là. C'est pour cela que je nous exhorte à ne pas publier des nouvelles de fond sans que vous ne puissiez avoir des sources sûres. Et quand nous allons publier l'information, que nous journalistes nous puissions être en dehors de cette information. Donc sur le plan professionnel, il faut observer les codes d'éthique et de déontologie professionnelle. Sur le plan humain, on se doit, par exemple, de rentrer chez soi bien avant, de ne pas se mêler des commentaires par rapport à une situation que vous ne maîtrisez pas. Ne cédez pas aux rumeurs et nous devons nous protéger nous-mêmes. Nous profitons de cette occasion aussi pour demander au ministre provincial de la communication et des médias, au gouverneur de la province du Sud Kivu, de mettre en place une task force communication qui sera en mesure de communiquer régulièrement les informations par rapport à la situation sécuritaire.
Tout en insistant sur l'importance de la communication émanant des autorités en cette période, le président de l'INPC Sud Kivu recommande aux journalistes de contacter plusieurs sources avant la diffusion d'une information et entrer à l'insécurité.
Avant de changer de chapitre, parlons de Munihire et Thomas Dakin. Mwiti Luanda, respectivement coordinateur provincial et assistant du programme de développement durable des régions conflictuelles du Sud au Nord Kivu, ont été libérés après plusieurs jours de détention au Rwanda. Leur libération a été confirmée par les organisations de la société civile, membres de la plateforme et groupe d'appui à la traçabilité et la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Hier, mercredi 5 février, les deux agents avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de traverser le Rwanda pour rejoindre Beni, où se trouvent actuellement les institutions provinciales du Nord Kivu. Selon un membre de la société civile, ils voulaient traverser le Rwanda pour atteindre Beni, où se trouvent actuellement les sièges des institutions provinciales du Nord Kivu. Ils ont été cueillis dans les bus par les services de renseignement rwandais et ensuite ramenés près du PD à Goma. Cette arrestation a provoqué une grande inquiétude parmi les acteurs locaux et de nombreuses démarches ont été entreprises pour assurer leur libération. Exactement 6h28 dans les studios de Radio Maïndéléo.
Suivez Radio Maindeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maindeleo. Radio Maindeleo, c'est vous.
Je vous l'avais promis que nous allons changer de chapitre et parler des quatre rivières qui tirent leur source dans le parc national de Kahuzi-Biega pour se déverser dans les lacs Kivu, qui menacent une grande partie de la route nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Kavumu dans les territoires des Kabare, précisément sur une distance de moins de 10 km. Il s'agit des rivières Chikumbi, situées à l'entrée de l'UCB Kalambo, Mpungwe, au-dessus de la paroisse Sampi de Muresa, Karachomwa, à l'entrée du monastère Notre Clarté Dieu et Mouchouva, à la limite entre les groupements de Miti et Mudaka. Riki Umbeni.
Pas plus tard que ce mardi 4 février, les eaux en débordement de la rivière Chikumbi en cri à Amsar ont bloqué la route Bukavu-Kavumu pendant plus d'une heure après une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la majeure partie du territoire de Kabare. Des dizaines de véhicules de transport en commun, des privés, des officiels en plus des motos étaient visibles de part et d'autre, paralysant ainsi la circulation sur ce tronçon qui assure la liaison entre Bukavu et l'aéroport de Kavumu. Nouvellement réhabilité, ce tronçon routier est actuellement menacé. En effet, les motos des terres ont bouché toutes les canalisations, poussant ainsi les eaux à envahir la chaussée. À certains endroits, les macadams n'est même plus visible car engloutis par des eaux boueuses. Pour le président de la société civile en territoire de Kabare, Leonidas Tabaro, c'est déplorable de voir cette situation qui persiste pendant que les autorités empruntent ces tronçons régulièrement. Il pense que les autorités devraient agir à temps pour sauver cette route.
On avait écrit à monsieur le gouverneur il y a à peu près 5 ans. Nous avons aussi adressé la copie à l'OV à l'office des routes pour qu'il y ait réhabilitation, surtout de la rivière Chikumbi à l'entrée de l'UCB parce que là, ça présente vraiment un danger. La route qui a été réhabilitée récemment va être coupée à ce niveau-là et il n'y aura plus circulation vers l'aéroport. Tout sera bâclé. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités d'y réfléchir. Il y a même la société chinoise qui est en train de réhabiliter les Bretel, notamment Amsar et UCB, qu'on pouvait faire un plaidoyer à ce niveau pour que cette route soit réhabilitée le plus vite possible.
Il propose également l'organisation régulière des travaux de cantonnage manuel par les services compétents afin de sauver cette route longue de plus de 30 km à partir de Bukavu.
Avec vous, Endo Joé, nous allons parler enfin de Chubaka Migabo Peuple, qui est le nouveau chef de groupement de Kacheni Kamanyola dans les territoires de Walungu. Il a été investi le mardi 4 février 2025. Celui-ci s'est fixé comme priorité la pacification et le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette entité de la chefferie d'Engweche, souvent théâtre des soulèvements populaires. Il l'a dit à l'issue de la cérémonie de prise de fonction qui a connu la participation d'une délégation de la chefferie d'Engweche. Était présent pour les comptes des radios Maindeleo, notre correspondant à Kamanyola, Wendo Joé.
Aussitôt investi, ce mardi 5 février 2025, nouveau chef de groupement de Kacheni Kamanyola, conformément à la décision du chef de chefferie d'Engweche, Chubaka Migabo Peuple a repris la responsabilité devant une foule à liesse venue l'applaudir et se fixe comme priorité la pacification de la population de Kamanyola où les tissus sociaux semblent fissurer. La cérémonie de remise et reprise s'est tenue au bureau du groupement en présence d'une forte délégation venue de Walungu, conduite par Adalbert Muri Mugobanya, secrétaire administrative de la chefferie d'Engweche, qui demande au nouveau chef de groupement de Kamanyola de travailler dur, surtout en cette période de turbulence sécuritaire, de travailler en communion avec les conseils locaux de sécurité, les structures locales de la société civile et les leaders locaux pour la relance de cette entité au stade d'émergence.
Il a l'expérience, même si le contexte n'est plus le même, et il doit collaborer avec le comité local de sécurité, la jeunesse et la société civile pour que le travail aille pour le mieux, surtout en cette période de guerre. Faites attention, si Karongo Kamanyola cède, c'est fini.
Jadis, chef de groupement de Kacheni, entre 2008-2016, Chubaka Migabo Peuple reprend la commande dans un contexte plus particulier, des tensions sécuritaires et des soulèvements populaires à répétition et remplace à ses postes Chiruluire Migabo Oswald, son oncle paternel, qui a démissionné 4 mois après son installation pour des raisons de convergence personnelle de Kamanyola, Wendojo pour la radio Maindeleo.
Il est 6h33 dans les studios de Radio Maindeleo. À présent, nous allons prendre l'invité du jour.
Radio Maindeleo, la radio de développement. Place à l'invité du journal.
La situation politique sécuritaire du moment en RDC est une répétition de l'histoire ancienne du pays. Elle est similaire au contexte des guerres de 1996 à 1997 sous l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération AFDL et celle de 1998 à 2003 sous plusieurs belligérants avec, dans les deux cas, des mouvements soutenus par les Rwandais. Cet avis est de Ignace Mupira Mambo, ancien président de la commission de suivi du dialogue intercongolais de Sand City, au centre de la société civile Forces vives du Sud Kivu. Il estime que, comme à l'époque, il y a lieu d'amorcer plusieurs approches pour aboutir à la paix. Il propose la voie militaire, la voie diplomatique et surtout la voie du dialogue comme au temps du dialogue intercongolais de 2001 avec les acteurs politiques majeurs sous les auspices des églises, principalement l'église catholique. Ignace Mupira répond aux questions des Expedi Kalou.
Monsieur Ignace Mupira Mambo, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Expedi.
Nous l'avions appris depuis avant-hier, les confessions religieuses, deux blocs principalement, à savoir la SANCO et l'ECC, amorcent une série d'échanges avec les acteurs politiques majeurs en RDC, question de trouver une certaine cohésion à l'interne pour aboutir à l'étape du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Vous référant au passé, notamment avec le dialogue intercongolais qui est intervenu il y a plusieurs années de cela, qu'est-ce que vous attendez au terme de cette initiative? Est-ce que vous pensez que ça peut nous permettre de retrouver l'entente ou la paix tant attendue?
L'histoire se répète. Hein. Nous avons vécu ici deux guerres, la guerre de 96-97 avec l'AFDL, accompagnée par les mêmes alliés rwandais, burundais. Aujourd'hui, le Burundi est du côté du Congo, mais à l'époque, c'était les alliés ougandais, rwandais, et on a vu même des Éthiopiens, des Somaliens débarquer ici en octobre 96. On a connu une autre guerre, la plus meurtrière, celle de 98-2003. Le tableau est presque le même. Nous avons une guerre qui nous vient de l'extérieur. Nous sommes agressés, notre pays est agressé. À l'époque, on parlait aussi d'agression rwandaise. Et donc, pour résoudre cette crise, il y a plusieurs approches. Comme à l'époque, on parle de l'approche militaire, il y a l'approche politique interne, il y a l'approche diplomatique. Pour revenir à l'approche avec l'ECC et la SANCO, c'est une approche du dialogue. Il faut communiquer avec même tous les acteurs majeurs. Et parmi les acteurs majeurs, il y a les acteurs internes. Et là, on fait appel à la cohésion nationale. L'Église catholique, comme le président lui-même a dit, que l'Église doit se comporter comme l'Église au milieu du village, l'Église a la possibilité d'approcher les acteurs majeurs internes, ce qui est une bonne chose. Elle a aussi la possibilité d'aller au-delà de nos frontières. Au-delà, elle a la possibilité d'approcher les belligérants, pourquoi pas, les fameux Corneille Nanga et les autres. L'Église catholique peut se rendre à Kigali. Le président ayant pris la résolution d'approcher l'Église, c'est certainement pour que l'Église puisse l'aider à approcher ceux qui ne peuvent pas atteindre facilement, ceux qui ne l'écoutent pas plus. L'Église peut arriver à Bunagana, l'Église catholique peut venir à Goma. Et donc c'est une approche heureuse pour moi, parce que là nous sommes dans une démarche de résolution du conflit par une approche de dialogue.
Monsieur Ignace, nous constatons que vous le dites, l'histoire se répète. Si dialogue il y a, si échange il y a, en réalité ça peut se passer comment et avec quels acteurs?
Avant d'arriver au niveau de Sand City, proprement dit, il y a une cinquantaine de rencontres préliminaires. Les rencontres se sont tenues depuis Lusaka, depuis 1999, l'accord de cesser le feu de Lusaka, Abuja, Nairobi, Victoria Falls 1, Victoria Falls 2, Gaborone, Belgique, etc., pour aboutir à Sand City. Et même là, en avril, quand on a signé l'accord de Sand City, le RCD avait refusé de signer l'accord de Sand City. Ils sont venus créer l'ASD à Kisangani, si vous savez comment ça s'est terminé. Mais on a dû attendre plus de 8 mois pour signer finalement en décembre, le 17 décembre 2002, l'accord global est inclus. Et ça a intégré toutes les composantes belligérantes, comme on les appelait, le RCD Goma, le MLC, le RCD KML, le RCD national, et même les Mai Mai qui étaient une entité, et avec la société civile Forces Vives, la composante opposition politique non armée, ceux qui étaient exilés, les Pai Pai, les Fe Pai Pai, les Fe Mwando Simba, les Fe Kungwa Kumwanza, etc., et la composante gouvernement. Et l'Église était au centre de ces négociations-là. Voilà pourquoi, à la fin du dialogue, on fera de Mgr Marini Bodo président du Sénat. C'est parce que on a la communauté nationale a reconnu les efforts de l'Église. Vous voyez le rôle que l'Église a joué. Feu Monseigneur, feu l'abbé Malumalu, à qui on a confié la CI, feu Monseigneur Kuyendondo, chez nous du Sud Kivu ici, à qui on a confié la composante, disons la commission vérité et réconciliation. Nous sommes retrouvés pendant la transition avec des abbés, des sœurs. Je cite Monseigneur Guamouagne avec qui on était, etc. Et à l'époque, le Sud Kivu, comme toujours, s'est organisé en une commission qu'on a appelée commission du suivi du dialogue, que moi j'ai présidée. L'Église catholique était une composante majeure en soutien à la société civile à l'époque. Donc aujourd'hui, je vois que le président de la République a fait un bon choix, il ne s'est pas trompé. Je dois seulement souhaiter que la démarche de l'Église puisse atteindre tous les acteurs majeurs et que puisse nous amener vers la paix.
Merci beaucoup.
Merci.
Il est 6h40 dans les studios de Radio Maïndéléo. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Hélène Boudjirir et c'est mon nom, Jean-Claude Ndaga, sur la mise en onde. Je vous laisse suivre cette édition dans sa version swahili avec Ricky Ombeni. Nous, on se retrouve à 12h pour une nouvelle édition. Bonne journée.